pour ce magnifique cantique, invitation à la reconnaissance. Nous allons lire successivement deux passages, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament, comme nous le faisons habituellement. Le premier dans le deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel. Josué juge Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 14. Nous en lisons le tout dernier verset, ainsi que les trois premiers versets du chapitre suivant, c'est-à-dire du chapitre 15. 2 Samuel 14, 33 à 15, verset 3. C'est sans doute une curieuse manière de lire un texte, en sautant le guet, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement parce que il y a un problème en le lisant ainsi qui est mis en évidence. Puisque le chapitre 14 se termine sur un baiser de pardon, 5 ans après que Absalom, fils de David, ait été coupable d'un meurtre par une personne qui l'a utilisé pour cela, et puis chapitre 15. C'est le même Absalom qui va devenir un virtuel parricide, assassin dans son cœur du père qui lui a accordé son pardon. Donc nous sommes au bout de ces 5 années très particulières dans la vie d'Absalom par rapport à son père David, et il nous est dit que Joab, qui a servi d'intermédiaire pour la pseudo-réconciliation, dirons-nous, alla vers David et lui rapporta ce qui s'était passé. Le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa ou embrassa Absalom. Après cela, soyons toujours attentifs à cette petite expression qui revient des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Et généralement, elle sous-entend un appel à réfléchir sur l'avant et sur l'après. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il prépare une campagne électorale comme celle qui se prépare en ce moment. Il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte. Vous voyez, il choisissait aussi bien l'endroit comme, vous le savez, pour la campagne électorale, les présidentielles, et les principaux candidats ont choisi un secteur parisien qui était stratégique selon leur avis pour leur cote populaire. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Nous arrêtons là notre lecture et nous allons dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Hébreux, déjà un peu considéré ce matin, mais nous lisons donc dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, un verset, Hébreux chapitre 2, donc vers la fin du Nouveau Testament, Hébreux 2, verset 10, qui traite de l'humanité
du Fils de Dieu. Hébreux 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut ou le conducteur ou l'initiateur de leur salut. Chapitre 5, tout à fait dans le droit fil de ce que nous venons de lire, chapitre 5, toujours de l'Épître aux Hébreux, versets 8 et 9. Hébreux 5, 8 et 9. Il est encore question du Seigneur Jésus. Sur la terre, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans le cadre de ce premier ou cette première grande règle pratique concernant l'éducation des enfants, nous considérons la nécessité d'une éducation ferme dès le berceau. À l'intérieur de ce chapitre, nous avons tout d'abord considéré, hier soir en particulier, le principe de l'obéissance. Et nous avons commencé à nous intéresser de près, essentiellement durant la matinée, à l'apprentissage de l'obéissance. Dans l'apprentissage de l'obéissance, nous nous sommes intéressés à ce que nous avons appelé le brisement de la volonté propre, de cet esprit d'indépendance qui colle à notre peau et qui nous vaut tant de souffrances sur la terre. Nous avons fait un pas de plus en exigeant de nos enfants, dans l'éducation, dans leur éducation, une obéissance rapide et sans discussion, en particulier lorsqu'ils sont encore petits. Et puis, nous avons terminé notre réflexion en commençant à évoquer la regrettable nécessité, mais nécessité tout de même, de l'utilisation du châtiment corporel en nous appuyant sur un certain nombre de textes des Écritures, et nous étions arrivés à l'Épître aux Hébreux, dont nous venons de relire quelques versets, et plus spécialement donc au chapitre 12, dans les versets 4 à 11, au sujet desquels nous avons donné déjà quelques explications. Hébreux 12, 4 et suivant. Nous avons remarqué que le verset 4 constitue la raison fondamentale de la nécessaire correction de l'éducation. Apprendre dès l'enfance la résistance, même douloureuse, au péché qui, nous est-il dit dans les tout premiers versets de ce même chapitre, nous environne si facilement. C'est merveilleux quand on peut, dès l'enfance, être équipé pour les rudes combats contre le péché de la vie adulte. Il faudrait que l'enfance puisse servir à cela, qu'elle prépare, que l'enfance, sous le contrôle d'amour de ses parents, fourbisse les armes pour cette lutte, parfois à l'agonie. À certaines heures de la vie adulte, où il va falloir lutter vraiment à mort contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Deuxième remarque, Dieu nous corrige plutôt que nous châtie, avec la connotation actuelle très négative, alors que nous l'avons vu, le terme vient d'un mot qui désigne l'enfant mineur placé sous l'autorité et la discipline des parents qui vont donc veiller à bien l'éduquer, à bien le construire, à bien l'instruire et dans ce cadre à le corriger chaque fois que c'est nécessaire. Et cette correction est liée à l'amour de Dieu. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Troisième remarque, c'est même un crescendo. Il corrige celui qu'il aime. Il le corrige d'autant plus qu'il le reconnaît et l'accueille comme un enfant légitime. Il le reçoit comme son propre fils. Royalement, gracieusement adopté et ayant de ce fait les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres enfants qu'il pourrait avoir. Et derrière cette merveilleuse affirmation, quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Derrière cette forte affirmation, ce profil, le visage et l'exemple de son fils, unique et bien-aimé, le Dieu incarné, Dieu fait homme, Jésus-Christ, au sujet desquels, nous l'avons remarqué, nous avons lu deux versets, et je soulignerai en particulier au chapitre 5, le verset 8, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Le Fils de Dieu, lui-même, le Dieu incarné dans la perfection absolue, qui n'avait jamais connu la désobéissance, il aurait été éjecté du ciel. Sur la terre, dans le cadre de sa mission de sauveur des hommes, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il l'a fait parce qu'il était aimé du Père. Et il l'a accepté parce qu'il aimait le Père. Et parce qu'il nous aimait. Vous et moi. Certes, à la différence de notre éducation, il n'est pas allé de la désobéissance à l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, mais c'est dans le cadre de sa mission, de son ordre de mission, aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, quoi qu'il en coûte. Quelles que soient les épreuves et les tentations sur le chemin, quelle que soit l'hostilité, aller jusqu'au bout, sans trébucher, sans tomber dans le péché. Et être vainqueur à chaque nouveau degré d'épreuve supérieur au précédent, jusqu'à l'épreuve ultime, sommitale, n'est-ce pas ? De la croix. Il a été élevé à cette perfection dans sa mission par les choses qu'il a souffertes. Et c'est à cause de cela qu'il est devenu mon sauveur, l'initiateur de mon salut, le conducteur de mon salut. Pour mener mon salut jusqu'à son terme, il s'y est engagé, il le fera jusqu'au bout. Et on ne peut pas lire Hébreux chapitre 12, versets 4 à 11, sans garder comme si l'on avait un billet de 10 euros ou de 20 euros, sans garder en filigrane, vu par transparence, le portrait du Seigneur Jésus dans sa perfection, qui dans sa perfection a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si lui, dans sa perfection, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, à combien plus forte raison nous, disciples de Jésus-Christ, devons emprunter le même chemin, et à combien plus forte raison, si nous voulons être de bons éducateurs, devons-nous aussi placer nos enfants dans des situations d'apprentissage de l'obéissance par les choses qu'ils vont souffrir, mais que Dieu va utiliser pour faire d'eux un jour aussi des instruments de sa grâce, afin que d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants, d'autres jeunes gens, d'autres jeunes filles soient conduits au pied du prince du salut, au pied de la croix. Toujours dans Hébreux chapitre 12, la suite du texte nous dit, verset 9 d'ailleurs, « Puisque nos pères... » selon la chair, selon la filiation humaine, naturelle, charnelle, nous ont corrigés et que nous les avons respectés. C'est intéressant. Que nous les avons respectés. Il y a là un petit clin d'œil du rédacteur inspiré qui indique qu'en tout cas, lui... il a été de ceux qui respectaient leurs parents, père et mère, puisque d'autres textes parlent d'une éducation, bien sûr, entre père et mère. Nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie ? C'est-à-dire que le but est encore plus grand, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un but même à moyen terme. Ce n'est pas simplement pour quelques dizaines d'années vécues sur la terre, avec toutes les étapes que cela comporte. À un moment donné, on se marie, Dieu nous donne des enfants, pas toujours. Et puis on va vers la vieillesse, et puis l'on s'éteint pour notre vie sur la terre. Mais n'est-ce pas, C'est pour avoir la vie, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Ça va beaucoup plus loin encore. Et alors, le rédacteur ajoute, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, c'est ce que nous venons de voir, comme ils le trouvaient bon, c'est-à-dire selon leurs idées, selon leurs impulsions. Ça veut dire qu'en même temps, le rédacteur est plein de réalisme. Il ne dit pas que papa et maman ne se soient pas trompés. Il relativise jusqu'à un certain point la valeur de leur éducation en reconnaissant qu'il n'est pas de père et de mère parfaits sur cette terre. Pour au mieux souligner, par contraste, la qualité hors norme de l'éducation que Dieu le Père donne à ses enfants. Dieu, lui, nous corrige pour notre bien. Et ici, nous avons un mot qui est tourné vers l'intérêt, pour notre véritable intérêt, pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté ou pour nous communiquer sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, toute correction semble d'abord un sujet de tristesse. Et tous les enfants, y compris nous qui l'avons été, nous sommes d'accord de dire oui et amen. Quels sont les enfants qui se sont réjouis quand ils avaient un petit peu trop chaud aux fesses ou ailleurs? C'est vrai que c'est d'abord un sujet de tristesse. Et ça ne devrait pas étonner les parents. Il semble qu'aujourd'hui, les parents soient étonnés que leurs enfants soient tristes quand il faut prendre certaines mesures. Ce n'est pas étonnant. C'est normal. Mais il produit ou elle produit la correction plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, qui ont subi cette gymnastique, d'où vient le mot gymnase, il est là le mot. Littéralement, ça veut dire qu'ils ont été ainsi mis à nu, parce que les athlètes grecs, dans le gymnase, ils faisaient leur entraînement nu. Ça, c'était aussi un des aspects d'une culture païenne dont le Dieu d'Israël était bien sûr bien, bien, bien loin. Il produit ainsi plus tard pour ceux qui ont fait cette gymnastique un fruit paisible de justice. Plus tard. Et nous l'avons souvent dit durant cette série d'études. Ou bien nous sommes des éducateurs qui ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, alors nous cherchons notre confort et le bonheur éphémère de l'instant présent pour nos enfants, le carpe diem, comme on dit, n'est-ce pas, cueille le fruit du jour présent, tant pis pour demain. Ou bien nous sommes des éducateurs qui acceptons aussi de souffrir parce que nous visons le long terme en disant que qui sème aujourd'hui ne récolte pas aujourd'hui. Il récoltera demain, il y a des étapes à respecter. Mais quel bonheur de savoir que dans un grand nombre de cas, la bonne semence portée avec larmes aujourd'hui, produira des gerbes d'allégresse à l'heure encore lointaine de la moisson, puisque entre le moment où l'on sème à la naissance, où on récolte à l'âge adulte, vont s'écouler un certain nombre d'années, vous le savez comme moi. Et il faut savoir se dire, c'est peut-être dans 15 ans, c'est peut-être dans 20 ans, c'est peut-être dans 30 ans que mon épouse et moi, nous en verrons le fruit, peu importe. Nous travaillons dans le long terme, tout comme Dieu travaille en termes d'éternité, comme le dit ce texte d'Hébreux au chapitre 12. Quelqu'un a dit ceci, mieux vaut, concernant nos enfants, mieux vaut les voir pleurer maintenant que pleurer de les voir plus tard. Mieux vaut les voir pleurer maintenant que pleurer de les voir plus tard. Je pense à cette si gentille maman qui avait un garçon insupportable qu'elle essayait d'élever par la douceur et une candide persuasion. Et un jour, s'entretenant avec un pasteur, elle lui fit remarquer qu'elle ne croyait pas aux punitions et qu'au lieu de cela, elle préférait donner à son garçon une tape amicale dans le dos. Et le pasteur de répondre, « Madame, si c'est assez bas et assez fort, ça ne peut que lui faire du bien. » Si c'est assez bas et assez fort. James Dobson, dans un des livres, qui je crois d'ailleurs a été vendu en fin de matinée, a écrit ceci, « La nature a fourni un endroit précis qui est merveilleusement rembourré et qui ne demande qu'à être utilisé dans les moments de grande provocation. » Et je souhaiterais que les experts, entre guillemets, en discipline soient beaucoup plus éclairés quant à son but exact. Ceci étant dit, pour être pratique, il nous faut souligner que la correction doit être mesurée. Elle doit être juste. L'apôtre Paul, à deux reprises, dira dans Éphésiens et Colossiens, il faut qu'elle soit selon le Seigneur. Nous avons dans Proverbes 19, verset 18, Proverbes 19, 18, une indication bien précise, Proverbes 19, 18, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Ne désire point le faire mourir. » Et vous vous souvenez du passage, sans doute, que nous lisions dans 2 Corinthiens 2, ce matin, versets 5 à 11, en introduction, où l'apôtre Paul, après avoir fait pression de la part de Dieu sur l'église de Corinthe, dans laquelle se passaient des choses ignobles, a obtenu que l'un de ses membres, est-ce celui qui était coupable d'inceste, on ne le sait pas, mais en tout cas, elle a obtenu de l'église locale et de son corps d'anciens qu'ils mettent sous discipline le membre coupable. Et Paul va fermement insister, avec beaucoup de tendresse aussi, dans ce court passage que nous lisions sur la nécessité de ne pas accabler celui qui a été mis sous discipline. Pour ne pas laisser l'avantage à Satan, dont nous n'ignorons pas les desseins, dira l'apôtre Paul. Et il est évident qu'aussi bien le laxisme en matière de discipline que l'extrême sévérité en matière de discipline laisse à la puissance des ténèbres un avantage. Là où la discipline pourrait s'avérer remède de la part de Dieu, elle peut devenir un mal plus redoutable encore que la faute commise si nous n'y prenons pas garde. Correction mesurée juste selon le Seigneur avec ce souci d'équilibre. Et je pense ici à ces textes du Nouveau Testament, Colossiens chapitre 3, versets 20-21. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père ou parent, puisqu'on peut le traduire des deux manières, n'exaspérez pas, ne provoquez pas, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Il faut dire, n'est-ce pas, il faut l'avouer, que ceux qui nous ont précédés se sont parfois servis, quand ils étaient croyants, des textes que nous avons lus sur la nécessité de la verge pour la correction. Ils s'en sont servis pour justifier une discipline parfois extrêmement sévère. Nous ne sommes pas là pour faire leur procès. Et l'on constate tout de même que certains excès de sévérité engendrent moins de maux que les excès de laisser aller dans l'éducation des enfants. Mais ce n'est pas une grande consolation. Dieu nous demande simplement de vivre selon sa parole et non pas de dire, eh bien, après tout, mieux vaut que je sois trop sévère que pas du tout. Ça, ce n'est pas la manière de penser de celui qui marche avec Christ. C'est à nous de rechercher l'équilibre, la juste attitude selon le Seigneur. Hélas, notre époque se caractérise par un excès inverse, par une permissivité sans borne. Alors à ceux qui sont extrémistes, très rigoureux en matière de discipline, nous dirons que le contraire d'une mauvaise discipline n'est pas l'absence de discipline, mais une discipline juste et vraie. Et aux laxistes, nous dirons que le contraire de l'absence de toute discipline, ce n'est pas la cruauté, mais c'est une discipline équilibrée, contrôlée. Un des grands prédicateurs britanniques qui a beaucoup marqué le XXe siècle a écrit un commentaire sur Colossiens 3 dans lequel il dit « Quand vous voulez corriger un enfant, vous devez d'abord vous assurer que vous êtes bien maître de vous-même. De quel droit pouvez-vous déclarer à votre enfant qu'il mérite une correction quand, de toute évidence, vous la méritez aussi ? La maîtrise, la discipline de son propre tempérament est une condition essentielle, indispensable à tout acte de discipline sur les autres. Discipliner, donc, corriger sans emportement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire le compte du nombre de fois où, déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu se présente comme le Dieu lent à la colère. C'est frappant. Pourtant, il y a une densité impressionnante de textes qui traitent de la colère. D'ailleurs, le vocabulaire est d'une extrême variété dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a une vingtaine de termes différents pour parler des différentes formes de colère et des degrés de la colère, y compris de la colère de Dieu. Mais ce qui ressort le plus fortement de l'ensemble du message de l'Ancien Testament, c'est que Dieu est lent à la colère. Lent à la colère. Corriger sans emportement. Cela fait penser à ce papa qui se promenait en poussant une poussette, donc, avec son petit bébé. Il était là dans un parc et le bébé pleurait tout ce qu'il était capable de pleurer dans ses petits poumons. C'était une belle journée d'été, le parc était rempli de gens qui l'observaient. Et le père était très embarrassé quand on est papa, qu'on a un petit bougillon qui braille de tout son cœur et qui réveille tout le parc. On est un peu gêné parfois parce qu'on se demande si peut-être maman était là, ça irait mieux, hein. Et il était là à regarder bébé et puis les gens l'entendaient dire « Mais du calme, Malcolm, du calme, détends-toi. Il n'y a pas de raison de t'énerver. Calme-toi, tout ira bien. » Puis comme il était croyant, il ajoutait « Allez, Malcolm, confiance au Seigneur. » Alors il y a une femme d'un certain âge ou d'un âge certain qui l'observait en coin, là, puis qui finalement s'approche, l'arrête et lui dit « Mais oh, quel beau bébé! Vous avez dit qu'il s'appelle Malcolm ?» Et le père frustré de répondre « Non madame, il s'appelle Barnabé, Malcolm c'est moi !» Il s'exhortait, lui! Il doit être calme. Et il y a des moments où nous devons nous exhorter, parler à notre âme, comme le fait le rédacteur des psaumes 42 et 43. Il parle à son âme. Mon âme, tais-toi! Cesse de bouillir, ça suffit, on va baisser le gaz. Sans emportement. Et puis vous savez, faut-il ajouter qu'il y a des enfants qui excellent dans l'art de manipuler les parents, papa ou maman, lorsqu'ils savent qu'ils sortent facilement de leur gond. Et je voudrais vous en donner un exemple. Je l'ai sous les yeux, il est succulent. L'auteur, James Dobson, c'est intéressant, explique que durant son enfance, durant mon enfance, j'avais passé une nuit avec un ami exubérant qui semblait connaître chaque réaction que ses parents allaient adopter. Eric était semblable à un général de l'armée qui avait déchiffré les codes de l'ennemi, ce qui lui permettait de manœuvrer habilement pour le dominer à chaque fois. Tandis que nous nous enfoncions dans nos lits jumeaux, ce soir-là, il m'a fait une stupéfiante description du tempérament de son père. Eric a expliqué, quand mon père se met très en colère, il prononce des mots vraiment très durs qui vont beaucoup t'étonner. Il a mentionné 3 ou 4 exemples convaincants tirés de son expérience passée. Je lui ai répondu, mais j'ai du mal à le croire. Monsieur Walker était un homme très grand, plutôt réservé, qui semblait avoir réussi dans la vie. Je n'arrivais pas à concevoir qu'il puisse prononcer les mots qu'Éric venait de me lancer. « Tu veux que je te le prouve ?» a lancé Éric malicieusement. « La seule chose que nous ayons à faire, c'est de continuer à rire et à parler au lieu de nous endormir. Mon père va venir. » plusieurs fois, il va nous dire de nous taire. Et chaque fois qu'il doit nous calmer, il se mettra davantage en colère. Ensuite, tu vas entendre ses jurons. Attends un peu et tu verras. J'avais quelques doutes à propos de son plan. Mais j'avais vraiment envie d'entendre le digne Monsieur Walker lancer ses plus beaux jurons. Alors, pendant plus d'une heure, Eric et moi, nous avons fait de notre mieux pour inciter son pauvre père à faire des allées et venues du salon à notre chambre tel un yo-yo. Et comme prévu, chaque fois il était plus tendu et irrité que la fois précédente, et je commençais à m'énerver un peu, j'aurais bien voulu qu'on arrête cette démonstration, mais Eric avait déjà joué tant de fois à ce jeu, il ne cessait de me dire « Attends, ça ne va pas tarder !» Finalement, vers minuit, bon, c'est toujours autour de ces heures-là que ça se passe, hein, vers minuit, l'heure a sonné. La patience de M. Walker a rendu l'âme. Il a traversé le couloir menant à notre chambre en tempêtant. La maison entière tremblait tandis qu'il se précipitait vers nous. Il a failli arracher la porte de notre chambre. Il a bondi sur le lit d'Eric, inondant de coups mon copain qui était bien protégé sous trois ou quatre couches de couverture. Ensuite, il a laissé échapper de ses lèvres un flux de paroles qui avait rarement effleuré mes tendres oreilles. J'étais choqué, mais Eric était ravi. Pendant que son père défoulait encore sa colère sur le corps de son fils et hurlait ses injures, Eric s'est redressé pour me crier « Tu les as entendus, hein ? Je t'avais prévenu, non ? Je t'avais promis qu'il allait les prononcer. » Ce qui m'étonne, c'est que M. Walker n'ait pas essayé de tuer son fils à ce moment-là. J'ai longuement réfléchi à propos de cet épisode ce soir-là et j'ai pris la ferme résolution de ne jamais laisser un enfant me manipuler quand je serai grand. Ne voyez-vous pas combien sont importantes les techniques de discipline sur le plan du respect de l'enfant pour ses parents ? Sans emportement. Ah, mes amis, nous avons évoqué ce livre, tout se joue avant 6 ans, il y a 2 semaines. Sous-titre, 20 ans après le Spock, ce qui était là il y a 2 semaines se souvient de ce personnage qui a valu tant de misère au monde. Au niveau de l'éducation des enfants, voici le Dodson. Alors attention, Dodson avec un D. Nous parlons de James Dobson avec un B après le O. Ça, je dirais, c'est le bon. C'est un croyant authentique qui aime la parole de Dieu, qui s'appuie sur elle solidement et qui a beaucoup à nous apporter dans ce domaine. Là, c'est le Dodson avec un D, comme d'équerre, hein. Alors ne mélangez pas, ce serait vraiment faire outrage à l'autre. 20 ans après le Spock, voici le Dodson, un guide incomparable destiné aux parents d'enfants de moins de 6 ans. Vous voyez, quand nous avons commencé à éduquer nos chers petits, j'ai acheté 2 livres de Dodson en me disant « on va bien voir ce qu'il raconte ». Ah, on peut donner une fessée à un enfant. Ah, je dis « ouf !» Vous avez peut-être entendu répéter le vieux conseil, ne frappez jamais un enfant si vous êtes en colère. Ben, je pense, écrit l'auteur, que psychologiquement c'est un très mauvais conseil. Et je propose à l'opposé, ne frappez un enfant que si vous êtes en colère. Un enfant comprend très bien que vous le frappiez quand vous êtes en colère. Il sait que vous êtes furieux contre lui et il sait aussi pourquoi. Ce qu'un enfant ne comprend pas, c'est que s'il désobéit à sa mère à 10 heures du matin, qu'elle lui dise « Très bien, mon garçon, ton père réglera cela ce soir en rentrant. » Et quand le père rentre à la maison, on le charge d'administrer une fessée qui, pense-t-on, donnera une bonne leçon à l'enfant. Or, c'est ce genre de correction donnée de sang-froid qu'un enfant ne peut ni comprendre ni pardonner. Remarquez le mélange de vérité et d'erreur. D'un côté, il dit quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est qu'il faut frapper un enfant quand on est en colère. Et ensuite, l'exemple qu'il prend est un exemple juste, mais qui ne colle pas avec ce qu'il vient de déclarer. À savoir qu'il est vrai que si un enfant fait une bêtise maintenant, je ne vais pas lui dire, tu sais, la semaine prochaine, quand papa va rentrer, il va te flanquer une houste. Regardez à quoi ça ressemble. Il faut que l'enfant puisse faire le lien entre la faute qu'il a commise et la discipline. Plus le temps s'écoule, moins la discipline sera efficace. L'enfant n'y comprendra plus rien, d'autant plus que si en plus il est sensible, il risque de passer des nuits difficiles s'il sait que le père va déménager à son tour, comme nous l'avons vu, pour le corriger. Vous voyez, ce mélange habile d'un conseil extrêmement néfaste avec une illustration qui n'a rien à voir avec le conseil lui-même. Ce que je recommande est la fessée du type pan, aïe, pan, aïe. Souvenez-vous, c'est pas bon, hein. Votre pan suivi immédiatement du aïe de votre enfant. Ne le fessez que quand vous êtes furieux contre lui, que vous avez envie de régler la question sur le champ. De nos jours, trop de mamans semblent avoir peur de fesser leurs enfants. Ça, c'est un autre problème. Une fois de plus, il y a le mélange. Elles parlent et crient beaucoup, elles essayent de négocier avec l'enfant. C'est une faute énorme parce que cela ruine qui est mauvais. Alors, le comble, je ne vais pas tout vous lire, mais quand même. Page suivante, le but principal de la fessée. Alors là, je commence à comprendre pourquoi il a dit ça. Le but principal de la fessée, quoi qu'en disent beaucoup de parents, est de soulager les parents. Et nous en avons tous besoin de temps en temps quand nos enfants nous tapent sur les nerfs. Certains de nos lecteurs pourront trouver gênante cette idée que la fessée serve surtout à soulager les parents. Peut-être vivez-vous encore dans l'illusion que le but de la fessée est uniquement d'exercer sur l'enfant une influence bénéfique, etc., etc. Donc, mes amis, quand nous corrigeons nos enfants en utilisant leur majestueux postérieur, nous nous défoulons pour éviter que ça fasse des nœuds chez nous. Vous vous rendez compte? Ah, quand on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de dire comme bêtise, même en tant que spécialiste? Parce que c'est un spécialiste. Maintenant, j'aimerais bien connaître ses enfants. Sans emportement. Sans excès. Le châtiment corporel est réservé aux fautes graves et plus particulièrement lorsqu'il y a récidive. Ça ne veut pas dire que systématiquement, dès qu'il y a une faute, même d'une certaine gravité, il faut aller directement vers l'instrument de torture. Sans excès. Avec précaution. Ne pas frapper à la tête. Utiliser sa main. Oh, c'est vrai que parfois ça échappe. C'est tellement pratique. Elle est là, la main. Vous la traînez avec vous. Mais il est quand même intéressant de constater que les Écritures disent la verge. La verge. C'est-à-dire un objet neutre. Alors la verge, elle change de nom d'une culture à l'autre, d'une région à l'autre. en tout cas pas le chat à neuf queues avec des morceaux de plomb griffus à leur extrémité, n'est-ce pas? Un objet neutre. Et la verge, oui, la ceinture. Encore faut-il faire attention parce qu'il y a des boucles au bout des ceintures et qu'on peut vraiment faire mal si l'on utilise le mauvais côté de la ceinture. Donc tout cela, ça nécessite réflexion. Pas réflexion au moment où la faute est faite. Parce que si vous commencez à vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien prendre, le temps que vous alliez dénicher la ceinture, vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des choses justement qui font partie de la philosophie de la discipline, qu'il faut avoir réglé dans sa tête et dans le couple avant. Et j'aime l'idée de la verge, quelle que soit sa représentation pratique, parce que précisément, il faut quand même aller la chercher. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la main, on ne la cherche pas. Ça veut dire que le déclenchement est très rapide, avec tout ce qui signifie comme risque de faire mal où l'on ne doit pas faire mal. Parce qu'il y a des paires de lunettes, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a un nez. Et tout ça peut avoir à souffrir. C'est pour cela que nous avons dit qu'il vaut mieux en exclure la tête. Organe tellement important, n'est-ce pas? Et puis, savoir où se trouve la verge, pour qu'on n'ait pas besoin de mettre 10 minutes à aller la chercher. Mais ça laisse du temps pour que le lait ne déborde pas dans notre cœur. Au lieu de cette réaction épidermique, non contrôlée, pendant les quelques pas que nous faisons pour chercher l'instrument, on a le temps de mettre le pied sur le frein plutôt que d'appuyer sur l'accélérateur. Je suis frappé là aussi par la qualité de la pédagogie divine. Ce n'est pas pour rien qu'à diverses reprises, c'est la verge qui est évoqué plutôt que la main. Et il faudrait beaucoup parler de la main dans les Écritures parce qu'il y a aussi là beaucoup de choses à dire. C'est intéressant, là aussi, Dobson va dans ce sens, quand on administre la fessée, c'est une fessée, hein, il convient de le faire avec un objet plutôt neutre. Petite baguette, une ceinture, mais le moins souvent possible avec la main. J'ai toujours pensé que la main devait être regardée par l'enfant comme un objet en rapport avec l'amour et comme un instrument de punition, et non comme un instrument de punition. En outre, si le père de famille a l'habitude de donner une gifle à son fils alors que ce dernier ne s'attend pas à être frappé, celui-ci aura certainement tendance à baisser la tête et à reculer dès qu'il verra son père se gratter l'oreille. Et j'ai été parfois impressionné par l'attitude très craintive régulièrement de certains enfants, chez lesquels on pouvait deviner le type de relation qu'ils entretenaient avec leur père ou avec leur mère. Simplement parce que finalement, même les moniteurs, animateurs, animatrices et les autres hommes qui se trouvaient sur le chemin de ces enfants, quand ils faisaient un simple geste, alors qu'ils n'avaient aucune relation et aucune raison de faire quoi que ce soit, découvraient un enfant qui bondissait de 2 mètres, simplement, au moment où on se gratte quelque part. N'est-ce pas? On se dit, mais qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Pourquoi a-t-il peur de cette manière? Est-ce que à quelque part à la maison, on aurait pris l'habitude de le frapper pour un oui ou pour un non, et avec emportement, simplement par réaction épidermique. Au point que maintenant, dès qu'il voit papa ou maman faire un moindre geste, et même les étrangers, il a peur. Et il se cache. Il est certain qu'une bonne gifle peut déplacer le nez, abîmer les oreilles ou une joue. Si toutes les fessées sont administrées avec un objet neutre et au moment convenable, l'enfant n'aura jamais besoin d'avoir peur d'être soudain puni pour quelques petites fautes mineures. Il est des exceptions à une telle règle, comme par exemple le fait de frapper les mains de l'enfant quand il veut toucher le four ou d'autres objets dangereux. La fessée doit-elle faire mal ? Oui, sinon elle n'exercera aucune influence. Et vous avez remarqué le nombre de matelas, de couvertures et autres polochons que le fameux provocateur Eric avait entassé au-dessus de lui, parce qu'il n'y avait qu'une chose qu'il craignait. C'est que la colère de son papa lui fasse mal à quelque part. C'est là l'aspect dissuasif de la discipline. Correction, selon le Seigneur, sans emportement, mesuré, juste, sans excès, avec précaution, au bon moment. Nous l'avons dit, avant que le lait ne déborde, c'est-à-dire avant que l'enfant soit trop excité. Et il est évident que quand on suit un conflit entre enfants et parents et que l'on se rend compte que peu à peu un climat étrange s'installe, on se dit, mais pourvu qu'il intervienne ou qu'elle intervienne, parce que si elle n'intervient pas maintenant, mais qu'est-ce qui va arriver tout à l'heure? Il ou elle va sortir de ses gonds. Donc au bon moment, à la fois avant que l'enfant ne soit allé trop loin, et aussi avant que je sois moi-même trop énervé. L'enfant doit sentir ses parents maîtres d'eux-mêmes, et il réalise très facilement que le châtiment est parfois la riposte impulsive à l'orgueil blessé. L'enfant le sait. Il sent quand il y a quelque chose d'anormal dans le châtiment, quand il y a cette réaction qui est plus qu'une saine indignation et qui est une riposte à l'orgueil blessé. Il faut parler ici d'une correction avec une sévérité modulée, qui donc s'exerce à l'intérieur d'une certaine liberté. Il est évident qu'une faute commise par ignorance n'entraîne pas les mêmes réactions qu'une faute commise à main levée. Et là encore, la parole de Dieu est d'une grande richesse à cet égard. Dans l'éducation du fils aîné de Dieu, je ne parle pas du fils de Dieu, mais du fils aîné de Dieu, c'est-à-dire du peuple d'Israël, puisque Israël est appelé fils premier-né de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'éducation d'Israël, il est intéressant de constater que, à diverses reprises, le peuple d'Israël, en tant que fils premier-né de Dieu, a violemment murmuré contre le Père. À partir de la sortie d'Égypte et jusqu'à l'arrivée au pied du Sinaï. Et je suis frappé de constater que durant cette période, Dieu est passé sur les murmures de ce peuple. D'un peuple qui vivait dans l'ignorance de sa loi. Et puis, le temps est venu des 10 commandements, de l'érection du tabernacle, de toutes les autres lois de communion avec Dieu, avec les hommes, par rapport au péché, etc. Et alors, tous les murmures qui ont suivi une fois que le peuple d'Israël n'était plus ignorant des voix de Dieu, de la pensée de Dieu, toutes ces attitudes de murmure ont été sanctionnées systématiquement l'une après l'autre. Il y a dans le livre du Lévitique les sacrifices pour les péchés commis involontairement et la sanction, même une sanction suprême, pour les fautes commises à main levée. C'est-à-dire que Dieu est juste dans sa sévérité, puisqu'il y aura même, et nous en parlons en tremblant et sobrement, il y aura même dans le jugement dernier qui aboutira à l'étang ardent de feu et de soufre, ce que nous appelons l'enfer éternel, il y aura une gradation dans le jugement de Dieu, certains étant jugés plus sévèrement que d'autres dans l'enfer, mes amis, simplement parce qu'ils ont eu davantage de connaissances que d'autres. Capernaum sera jugé au jugement dernier beaucoup plus sévèrement que Ninive. Les villes qui ont connu des successions de miracles et d'enseignements extraordinaires du Fils de Dieu seront jugées beaucoup plus sévèrement que ceux qui n'ont pas connu cette visitation du Fils de Dieu. Il y a même dans le jugement dernier cet effet de la justice parfaite de Dieu dans des degrés de sanction ultime dans l'histoire de cette humanité. Nous devons nous en souvenir. Dieu veut que nous soyons justes dans notre correction. Correction avec respect. Ça veut dire que dans toute la mesure du possible, on ne va pas déculoter son petit garçon, sa petite fille devant tout le monde. On va sortir. Et il est parfois assez désagréable, je dirais, hélas, trop peu fréquent aujourd'hui. On aimerait parfois le voir, même si c'est désagréable, ça montrerait au moins que les parents s'occupent de leurs enfants. Mais ceci dit, il est vrai que quand quelque chose se passe en public, ce n'est pas en public qu'on va régler le problème. On prend l'enfant délicatement, on sort et puis on règle le compte avec l'enfant au dehors. C'est une affaire entre les parents et l'enfant, et c'est une manière aussi d'avoir du respect pour son enfant. Il y aura d'ailleurs d'autres aspects qui vont tout à fait dans cette direction. Faut-il aussi dans ce domaine être prudent, parce que nous pouvons être terriblement injustes dans le châtiment, parce que peut-être ne nous sommes-nous pas assurés que l'enfant, par exemple, a bien compris ce que nous lui avons demandé. On peut châtier de manière très très injuste parce qu'on ne s'est pas toujours posé certaines questions, et j'aimerais ici, et nous terminerons d'ailleurs avec ces aspects, évoquer brièvement cette importance d'une communication de qualité avec nos enfants pour ne pas les châtier, les corriger, les discipliner avec la verge, alors qu'en réalité nous sommes coupables parce qu'ils n'ont pas pu saisir exactement le contenu de ce que nous voulions leur dire. Mon fils Mathieu, qui a 3 ans et demi, ce n'est pas moi qui parle, était en train de manger une pomme lorsqu'il me demanda: « Papa, pourquoi est-ce que ma pomme devient marron ?»« Ben parce que quand tu as mangé la peau, sa chair est entrée en contact avec l'air. » Il a 3 ans et demi, le gosse, hein. « Ce qui l'a oxydé et a modifié sa structure moléculaire. Et c'est ça qui l'a fait changer de couleur. » Il y eut un long silence, puis Mathieu reprit timidement: « Dis, papa, c'est à moi que tu parles. » Est-ce que les demandes faites, les ordres donnés ont été donnés en termes suffisamment clairs et compréhensibles pour que notre enfant, à son âge, soit capable de les comprendre et de les mettre en pratique. Je pense à Roger Frison-Roche, que nous citions ce matin dans son autobiographie remarquable, Le versant du soleil. C'est un homme qui a beaucoup voyagé, d'ailleurs ses romans traitent de ses grands voyages, soit dans les pays nordiques, soit dans le désert saharien. Et c'est en 1955 qu'il a traversé le désert saharien pour arriver à Niamey, l'actuelle capitale du Niger, au terme d'une équipée de 5000 kilomètres. Et lui et ses équipiers ont été reçus chez le gouverneur de ce qui était à l'époque une colonie française. L'épouse du gouverneur, alors qu'ils sont tous autour de la table, avec le gouverneur et sa femme, l'épouse du gouverneur, de dire à Roger Frison-Roche et à ses collègues, « Vous savez, j'ai fait préparer une tête de veau à la vinaigrette. » Alors elle fait teinter la clochette et un serviteur habillé de blanc apparaît et des murmures d'approbation et d'appréciation s'élèvent, mais bizarrement, ces murmures ne sont pas pour le plat, mais pour le serviteur. Tout simplement parce que le serviteur a orné son visage de persil dans son nez et dans ses oreilles. Et il est là devant sa patronne avec une sorte de quête d'approbation de sa patronne. Alors finalement, elle le renvoie et quand il est reparti, elle est très très gênée et elle tente d'expliquer à ses invités, vous savez, je lui avais dit, tu présenteras la tête de veau à la française avec une touffe de persil dans les narines et autour des oreilles, il a pris ça pour lui. Ça arrive à nos enfants. Je me souviens de certaines mésaventures qui m'ont valu de me faire frotter les oreilles, mais je n'avais tout simplement pas compris. La camarade de chambre de ma fille Julie, dans leur foyer à l'université, n'avait jamais fait de lessive de sa vie. Julie lui expliqua comment faire en précisant bien qu'il fallait séparer le blanc des couleurs, mais le samedi suivant, rentrant d'une sortie avec des amis, elle la retrouva en larmes. « J'ai lavé tout le blanc et puis tout le jaune. J'ai fini le vert, mais j'ai encore le bleu à faire, j'en ai assez !» s'exclama la malheureuse. Elle séparait les couleurs. Notre petit-neveu de 4 ans, à qui l'on demandait où était passé le tube de dentifrice, nous fit cette réponse. « J'ai vu papa le goûter et cracher. J'ai regardé maman et elle aussi, elle a fait pareil. Alors, comme personne ne l'aimait, j'ai pensé que c'était mieux de le jeter. » N'allez pas mettre une fessée à l'enfant qui a jeté le dentifrice sans avoir essayé de comprendre pourquoi il l'a fait, n'est-ce pas ? Et nous pourrions ainsi continuer. Je vous donne un dernier exemple. C'était la nuit. Le vent soufflait en tempête et faisait claquer un volet. Mon père sortit dans le jardin pour tâcher de caler le volet. C'est alors qu'il reçut un formidable coup de pied dans le derrière. Le temps de faire volte-face, il ne vit qu'une ombre s'enfuir. Quelques jours plus tard, il rencontra un ami qui lui raconta tout fier. « Figure-toi que l'autre soir, j'ai surpris un individu qui écoutait à votre volet, mais ne t'inquiète pas, je lui ai envoyé un de ces coups de pied qui lui retirera l'envie de recommencer. » Bon, j'ai donné ces exemples, dont un certain nombre visent des adultes. Mais si c'est là un problème d'adulte, à combien plus forte raison cela peut aussi être un problème d'enfant. Et je suppose que si vous êtes de vrais parents, il vous est arrivé de devoir demander pardon à vos enfants. Parce que vous les avez disciplinés, vous les avez corrigés, vous avez manié la verge. Sans avoir pris aux précautions, dans certaines situations, pris la précaution de leur poser quelques questions. Pour savoir ce qui avait bien pu leur passer par la tête pour faire ce qu'ils ont fait. Et c'est parfois ensuite, une fois que vous aviez déversé la colère, qu'alors vous avez appris que vous aviez fait fausse route. Et tout cela est là pour nous aider de manière à ce que nous ne nous conduisions pas en parents injustes. Je termine avec Proverbe 29, 17, nous l'avons lu. Corrige ton fils et il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. Corrige ton fils, il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. Après tout, c'est valable aussi, n'est-ce pas, de pouvoir respirer une atmosphère meilleure pour tous à la maison. C'est tellement pesant, difficile à vivre, épuisant, que d'être en compagnie d'une famille dans laquelle les enfants font absolument ce qu'ils veulent. On n'a pas de repos. Il n'y a pas de délice. Et c'est triste à dire, on regarde parfois sa montre en souhaitant que la torture dure le moins longtemps possible. Ce serait si bien si on pouvait passer des heures et des heures avec ses chers amis. Mais vraiment, c'est insupportable quand on voit le charivari, le désordre qu'entraîne l'absence d'éducation des enfants dans un foyer qui vous reçoit. Que nos foyers puissent aussi être accueillants dans la mesure où ceux qui y entrent ne vont pas être subitement saisis de panique et d'angoisse et tenir absolument à nous quitter le plus vite possible parce qu'ils se demandent s'ils réussiront à tenir le coup jusqu'au bout. L'atmosphère est plus respirable à la maison. Nous nous arrêtons là. Alors j'ai entendu notre ami Patrick ce matin déjà, et cet après-midi, évoquer la quatrième et dernière partie de notre enseignement. Si vous êtes tant soit peu de fins observateurs de l'invitation qui a été d'ailleurs préparée par les soins de notre frère, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une nuance à quelque part. Quand on termine un programme qui s'est échelonné sur un certain temps et avec diverses étapes, on met suite et fin. Mais quand on envisage l'éventualité que ce ne soit pas encore la fin, on fait très attention, on met suite. Comme ça, il y a encore la possibilité de continuer. Il va de soi que je ne voudrais pas vous abreuver encore durant des années d'enseignement sur l'éducation des enfants. Toutefois, nous avons encore de quoi remplir un week-end. Alors je n'en dis pas plus, et si à quelque part ça démangeait à l'église de l'Oasis que nous continuions encore à creuser certains aspects, parce qu'il y en a encore, hein, une éducation juste, vraie, constructive, la justice et la vérité, sanction et pardon, toute la question du pardon, l'amour égal pour tous nos enfants, le problème des affinités, le problème des comparaisons entre les enfants, le problème de l'ordre des naissances des enfants, l'éducation constructive, mettre nos enfants au travail, leur apprendre à donner, gestion financière. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais le Seigneur saura nous diriger. Vous voyez que c'est un thème immense dans les Écritures et qui présente cet avantage de nous concerner tous, que nous soyons parents ou non, parce qu'il a quantité d'applications pour notre vie tout court et pour notre vie de disciples de Jésus-Christ et d'Église de Jésus-Christ en particulier.